7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Clémence Denavy.
Bonjour les voisins, les voisines, c'est 7 milliards, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, pas de l'argent en tant que tel, mais de votre relation à l'argent, les voisins. Ce que cette relation dit de vous, les voisins, les voisines, l'argent est source de quoi pour vous? D'angoisse? Passez-vous votre temps à compter vos sous? L'argent fait-il ou ne fait-il pas le bonheur? Est-ce un sujet tabou? Dites-nous tout, appelez-nous 01 84 22 71 71. Avec nous pour en parler, trois invités. Christian Junot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez longtemps travaillé dans la banque, l'argent n'a pas été le meilleur de vos amis, mais vous avez depuis fait la paix avec l'argent et vous aidez les autres à faire de même. Vous en avez fait un livre, Ce que l'argent dit de vous, publié aux éditions Erol. Marie-Claude François Legier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste à Paris, vous avez travaillé pendant 30 ans dans la banque, vous aussi, vous gériez des participations dans les sociétés, ça suppose quelques tensions évidemment, comme l'argent au sein du couple peut-être. C'est l'un de vos livres, L'argent dans le couple et la famille, édité chez la petite bibliothèque Payot. Bonjour Hélène Queneau-Suarez.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous travaillez sur la classe moyenne en Afrique subsaharienne. À vous la parole, les voisins, je vous rappelle le numéro. Appelez-nous, même si vous avez été très nombreux à nous écrire sur Facebook. Merci encore. 33 1 84 22 71 71. Et pour commencer cette émission, j'avais envie de vous lire l'une des premières citations que l'on trouve dans votre livre, Christian Junot. C'est une citation du Dalai Lama. Les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent cet argent pour retrouver la santé, et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Pourquoi cette citation en ouverture de votre livre, Christian Junot?
Je pense que cette citation résume bien ce que je rencontre dans mes ateliers, c'est-à-dire que les personnes s'empêchent de vivre pleinement leur rêve, d'utiliser pleinement leur talent, leur don pour en faire un projet professionnel parce qu'ils ont peur de l'argent. Donc finalement, d'une certaine manière, ils passent à côté de leur vie, et justement toutes les peurs, tout ce qu'il y a derrière ces peurs derrière la relation à l'argent fait qu'ils ne vivent pas réellement. C'est comme si c'était des vivants un peu morts déjà.
Donc c'est difficile d'avoir une relation sereine avec l'argent. C'est d'ailleurs ce que nous dit sur Facebook Richard, rapport au prince. Je vis ma vie sereinement avec l'argent que je gagne, dit-il. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je me comporte donc toujours en maître face à l'argent pour ne pas me laisser submerger et dominer par mes envies. Nous avons déjà un premier appel. Bonjour Gaoussou.
Bonjour.
Vous nous appelez de Malabo, la capitale de Guinée équatoriale. Racontez-nous un petit peu quelle est votre relation à l'argent.
Ok, bonjour Clémence. Les gens se focalisent sur l'argent en pensant que ça fait le bonheur. Ils se trompent, car c'est le plus malheureux. Pour moi, l'argent est un instrument qui sert à procurer le besoin et non le bonheur. Tu peux avoir une femme, mais tu ne pourras jamais acheter son amour. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis célibataire, sans enfant, à cause de l'argent. J'ai quitté mon pays, le Mali, pour la Guinée équatoriale, pour chercher de l'argent. À cause de ça, je me sens en retard. En Afrique, avant, quand tu voulais épouser une femme, la première question c'était « De quelle religion tu es ?» Mais maintenant, ça a changé. C'est « Quel travail tu fais ?» À cause de l'argent, les gens sont devenus cruels. Je préfère être cordial, gentil, avec tout le monde, que de chercher le véritable amour, qui est le bonheur, que de chercher uniquement l'argent pour vivre malheureux.
L'argent domine-t-il? Oui, Gaoussou, l'argent, Christian Junot, domine-t-il l'amour aujourd'hui? Est-ce que dicte tout, même dans l'amour?
Alors non, et heureusement pas. Je rejoins notre auditeur pour dire effectivement que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, l'amour ne s'achète pas. Et la qualité des relations qu'on a avec les différentes personnes dans notre famille, dans notre entourage, ne s'achète pas aussi. Et j'ai envie de dire, heureusement, ça laisse la même chance à chacun. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ce n'est pas confortable d'en avoir. Donc pour moi, c'est clair que c'est important de remettre l'argent à sa juste place, parce que si on y met trop de place, effectivement, ça va nous empêcher d'être nous-mêmes dans la relation, parce qu'il y a comme l'argent qui va être au milieu de tout ça et qui va empêcher une qualité de relation telle qu'on la cherche.
Marie-Claude François Logier, vous avez observé un changement des mentalités, vous, ces dernières années. On ne conçoit pas l'argent de la même manière qu'il y a, disons, 20 ans.
Oui, il y a 20 ans, on pouvait considérer qu'on pouvait faire de l'argent, en tout cas en France, d'une façon spéculative, accumulative, et qu'on pouvait le montrer. Mais il pouvait polluer aussi les rapports à l'intérieur d'une famille et d'un couple. Maintenant, en tout cas, les Français sont beaucoup plus prudents dans leur rapport à l'argent, et ils sont concernés par l'environnement de crise, et donc ils essayent de faire de l'argent, mais plus dans un souci de protection et de sécurité, et pas forcément pour acheter justement les sentiments, l'amour, etc., parce que ça ne s'achète pas.
Et c'est la peur qui domine, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Je trouve que la peur domine beaucoup en ce moment.
La peur de manquer d'argent, en fait.
Alors, c'est la peur du manque qui, pour des raisons psychologiques, vient de très loin, le rapport à la mère, le sein intarissable qui devrait nous protéger toute la vie, et souvent les gens qui frénétiquement faisaient de l'argent dans les spéculations courait après l'argent à la recherche d'un bonheur impossible. Mais maintenant, l'argent est plus lié dans la représentation qu'en font les personnes interrogées, plus lié à un souci de sécurité et d'épargne ou de réalisation de projets personnels.
Et Hélène Quellen-Suarez, c'est le sentiment que vous partagez également?
Oui, moi, c'est très important ce que j'entends sur la protection, la sécurité en temps de crise, parce que finalement, c'est relativement les comportements qu'on retrouve au sein des classes moyennes africaines. Alors, je parle de manière très générale, évidemment, mais pour faire très simple, les classes moyennes africaines, ce sont celles qui sont sorties de la pauvreté, qui ont les moyens de se projeter un petit peu en avant. Et une des spécificités de ces classes moyennes africaines dans de nombreux pays africains, c'est que justement elles commencent à sécuriser leur position dans des environnements politiques qui sont pas très certains, qui sont plutôt des environnements de crise. Et donc du coup, l'argent sert à sécuriser la position, à acheter une maison, à beaucoup investir dans l'éducation des enfants en particulier, pour éviter de retomber dans la pauvreté et se protéger des crises politiques qui pourraient les affecter.
Donc qu'on soit au nord ou au sud, c'est vraiment une question de sécurité. On sécurise ce qu'on a par la peur de manquer, c'est un peu le moteur. Armel nous appelle de Libreville. Bonjour Armel.
Bonjour Madame Clémence.
Donc vous posez une question, peut-être, c'est quoi l'argent pour vous alors?
Oui, l'argent pour moi, ça sert à dépenser et à subvenir aux besoins de la famille, hein, de la mettre en sécurité. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que nous constatons souvent, c'est que l'argent aujourd'hui, l'homme, lorsqu'il en a, il met à la disposition de son épouse, de sa famille, pour le bien-être de toute la famille. Parce que chez nous ici, lorsque vous avez de l'argent, ce n'est pas seulement pour vous, votre épouse, mais derrière, ça, il y a encore les parents, donc mère, tante, belle-sœur, belle-mère, un peu toute la famille derrière que vous aurez. Mais au-delà, quand c'est l'homme, ça se passe bien. Mais lorsque c'est la femme qui a plus d'argent, c'est maintenant un problème, souvent dans le couple. Bon, pas dans tous les couples, mais dans certains couples, parce que l'argent devient maintenant une position sociale où la femme maintenant veut dominer l'homme, veut gérer l'homme, et l'homme vraiment se sent complexé et diminué, parce que chez nous ici, quand l'homme n'a pas de l'argent, vraiment, il n'a pas de la valeur. Il faut trouver cette femme-là qui peut partager, qui peut vous devoir du respect, l'honneur, pour qu'on ne puisse pas sentir que c'est elle qui assume toutes les dépenses, ou bien vous compléter. Donc vous voyez que ce soit un problème. Et aujourd'hui, on le voit souvent qu'il y a même des divorces au sein de ce foyer, parce que quand la femme apporte le langage qu'elle tient souvent, mais moi aussi je participe dans ce foyer, je le fais comme toi, donc tu n'as plus rien à me dire. Donc on voit maintenant cette égalité, et lorsque ça monte comme ça, puisque nous avons des comportements, on peut dire, machistes, ça fait que l'ego est touché. Et on n'accepte pas.
C'est presque ce que j'ai envie de vous dire, en définitive. Oui, les femmes, maintenant, ont gagné en une certaine autonomie, notamment en gagnant de l'argent. Marie-Claude François Logier, est-ce que l'argent a un sexe?
C'est-à-dire, il signifie des choses différentes, je crois, pour l'homme et la femme. La femme, c'est vraiment, même si elle est autonome financièrement, même si elle travaille, il y en a quand même 50% qui ont un salaire, enfin les femmes de 25 à 50 ans, en tout cas en France, mais même si elle travaille, elle a une autonomie, mais elle consacre beaucoup de ses revenus, dans un premier temps de sa vie, à la protection de la famille. Et elle dépense un peu sans compter pour les enfants, les loisirs, le foyer. Et puis à partir de 50 ans, il y a un petit repli sur elle, qui n'est pas néfaste, mais qui simplement l'entraîne à penser davantage à son propre plaisir et à sa sécurité. Cela étant, pour rejoindre monsieur, si elle a plus d'argent que l'homme, ça peut poser un problème dans le couple, parce que, comme vous le disiez très bien, monsieur, l'homme se sent infériorisé, on dirait castré en langage psychanalytique, et il se sent inférieur et il peut en souffrir, parce que pour l'homme, l'argent est plus un symbole de puissance, voire de virilité, et puis, quelle que soit la personne dans le couple qui ait l'argent, c'est un moyen un peu de contrôle sur l'autre.
Christian Junot, on investit l'argent de plein de sentiments, on lui prête beaucoup d'attention.
Alors oui, peut-être si je peux rebondir sur ce qui a été dit, peut-être si vous permettez, c'est que je vois effectivement des ateliers de plus en plus de femmes qui recherchent à travers l'argent plus d'autonomie, d'indépendance, donc on peut bien voir tout ce qu'il y a derrière aussi, mais je peux dire que je vois aussi que c'est un piège pour elles d'une certaine manière, parce que j'en vois beaucoup qui vont, j'ai envie de dire, s'enfermer ou s'emprisonner dans un métier qui amène beaucoup de souffrance parce qu'elles veulent absolument être autonomes et indépendantes, et finalement avec un prix à payer qui est cher, et que finalement ce serait pas forcément indispensable, et de voir vraiment que finalement on veut être indépendant et on crée une dépendance à son emploi pour être indépendant. Vous voyez un peu le drôle de jeu qui se joue.
Donc c'est un cercle vicieux en fait.
Absolument, parce que l'indépendance, l'autonomie ne se joue pas que sur l'argent d'ailleurs, et heureusement.
Hélène Queneau-Soares, est-ce que c'est difficile quand on n'avait pas d'argent avant, qu'on en a maintenant, de se sentir légitime dans le fait d'avoir de l'argent, dans le fait d'aller consommer, d'où on va, d'où on se rend?
Mais c'est-à-dire que le fait d'avoir plus d'argent, ça ne crée pas une consommation automatique. La consommation, ça a des aspects culturels également. Je prends un exemple qui a été développé dans une étude qu'on a faite à l'IFRI il y a environ 2 ans. C'est une chercheure qui a fait un travail sur les classes moyennes noires de Soweto en Afrique du Sud, et elle explique que quand les gens accèdent à une certaine prospérité, ils ont envie de consommer de nouveaux produits, ce qui est tout à fait légitime, et en particulier un produit phare qui est le fromage, parce que le fromage, ça a été longtemps un produit un peu interdit, plutôt de la culture blanche, et donc du coup ils ont envie de consommer du fromage, ils ont la possibilité de le faire. Et dans le même temps, c'est un peu difficile d'aller l'acheter au tout départ parce que le fromage, ça reste un produit de blanc. Et donc du coup, même dans l'argot de Soweto, pour dire un enfant gâté, on dit cheese boy, un enfant du fromage. Et donc du coup, c'est pas facile d'aller consommer certaines choses, d'aller se faire plaisir sur un certain nombre de produits, parce que elles ont une connotation culturelle. De la même manière, ça a été long dans certains pays, je pense en particulier à la Côte d'Ivoire.
Oui.
Pour investir les supermarchés qu'on a longtemps vus comme des lieux d'élite ou des lieux réservés aux expatriés. Et ça vient, mais c'est au terme d'un long processus d'appropriation. C'est-à-dire que la consommation, le mode de vie, il faut se sentir légitime à l'avoir et puis s'approprier le pouvoir qu'on a avec l'argent qu'on a nouvellement gagné.
Ça vous évoque quoi, Christian Junot, quand vous entendez ça?
Alors bon, effectivement, le fait qu'on puisse utiliser l'argent comme une réussite sociale, on le voit bien souvent. Alors peut-être bien sûr que en France ou en Suisse, ça sera pas sur le fromage, mais ça va se manifester sur d'autres choses. Mais pour moi, alors il y a bien sûr le côté que je comprends très bien d'avoir envie d'accéder à des choses nouvelles. Et en même temps, pour moi, il y a aussi un autre piège, c'est de vouloir se montrer qu'on a de la valeur à travers des objets extérieurs. Et aussi longtemps qu'on cherche à montrer la valeur à travers des objets extérieurs, ça veut dire que c'est parce qu'on a un manque de valeur intérieure, le regard sur soi n'est pas suffisamment positif, qu'on essaie de le compenser par quelque chose d'extérieur. Et je vois bien que ça marche pas, puisqu'il faut toujours autre chose de nouveau pour compenser ce manque de valeur. Donc à un moment donné, inévitablement, ce sera important de retourner le regard sur soi, et comment j'arrive à me donner de la valeur indépendamment que du fait que j'ai de l'argent ou pas.
Oui, c'est ça, parce qu'on peut avoir de la valeur indépendamment, c'est-à-dire que ce que je fais et ma vie est le reflet de la valeur que j'ai.
Et bien sûr, et à travers les premiers auditeurs, on peut voir aussi que le fait d'avoir une famille, de s'en occuper, de donner le maximum pour eux, c'est déjà un merveilleux exemple de valeur qu'on a et qui profite, et bien sûr aux enfants, mais à l'ensemble de la société également.
Le 33 1 84 22 70 71, n'hésitez pas, appelez-nous les voisins, racontez-nous un petit peu votre relation à l'argent. Un mot peut-être, Christian Junot, j'aimerais que vous nous parliez de la money attitude, c'est-à-dire l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'argent. Vous distinguez trois grands types de comportements vis-à-vis de l'argent.
Alors oui, tout à fait. Donc, je me suis basé sur les recherches de Peter Koenig, qui a fait ce travail de recherche pendant de nombreuses années. Donc effectivement, un premier mouvement, c'est les personnes qui sont dans la tendance accumulation, on appellerait ça écureuil également, donc ils vont avoir une vigilance permanente à faire en sorte d'en dépenser moins qu'ils en gagnent, donc arithmétiquement ils vont inévitablement économiser. C'est pas les montants qui est important, c'est vraiment la tendance et cette volonté d'en avoir toujours, d'en économiser toujours plus. Ce sont des personnes qui ont une projection positive sur l'argent, c'est-à-dire que inconsciemment sur l'argent ils projettent la sécurité, la liberté, l'autonomie, l'indépendance par exemple.
Et Hélène Queneau-Soares, juste parce que je pense que l'épargne, mettre de côté, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les classes moyennes africaines également.
Oui, surtout dans les franges les plus modestes, paradoxalement des classes moyennes. J'aime beaucoup l'image de l'écureuil. Il faudrait peut-être essayer de trouver quelque chose d'un peu plus local pour la zone sahélienne. Moi, ce qui est très important, si vous voulez, dans les classes moyennes et dans l'émergence d'une identité de classe moyenne, c'est que les classes moyennes, elles se définissent un petit peu. Bon, elles se définissent toujours un peu par défaut, c'est-à-dire elles sont ni riches ni pauvres, mais elles se définissent aussi contre les riches. Souvent, ils les voient comme très bling-bling, comme ostentatoires, et c'est pas du tout que la manière dont sont les classes moyennes, en particulier les plus modestes en Afrique subsaharienne. Ce qui les définit, c'est quand même plutôt la frugalité. C'est montrer qu'on fait peu, qu'on fait beaucoup avec peu d'argent, et justement qu'on met une valeur positive dans l'argent pour pouvoir évoluer socialement. Donc c'est vraiment effectivement des écureuils qui ne se mettent pas vraiment en avant à travers l'argent, paradoxalement, et qui savent vraiment l'épargner pour pouvoir se projeter,
évoluer,
dans
le futur, projeter, ouais. Poursuivre. C'est ce que dit d'ailleurs Toufa de Saint-Louis au Sénégal. Pourquoi vouloir toujours plus d'argent? Le mieux ne serait-il pas de nous contenter de ce qu'on a? On a en ligne également Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Clément.
Vous appelez de Bagneux, c'est dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Alors expliquez-nous.
Moi je vous ai dit que l'argent, c'est un moyen. Oh, est-ce que je dis, c'est pas une fin, c'est un moyen pour vivre. Aujourd'hui, ça crée quoi? Vous prenez un exemple simple pour ce que je vais vous donner. Moi j'ai 4 enfants et dont je m'occupe, je travaille, et avec cet argent, je les nourris, je les habille. Vous devinez, en ce moment, lorsque vous avez un enfant qui n'a pas confiance à son père, parce que ce qu'il demande, je parle pas des caprices, c'est qu'il demande, son père peut pas exaucer.
C'est-à-dire peut pas lui apporter, oui.
Voilà. Vous voyez que ce père-là, il pèse toute son autorité. Ça, c'est très important, être capable de pouvoir assumer, ne serait-ce que pour sa famille. Deuxièmement, quand vous ne pouvez pas nourrir vos enfants avec vos moyens, vous vous rendez compte, vous attendez que quoi, soit le voisin qui nourrisse vos enfants, ça pose un problème d'autorité. Donc je dis, l'argent c'est un moyen, ce n'est pas une fin. En revanche, il y en a qui en ont suffisamment, qu'on peut regarder et qui sont positifs. Par exemple, Bill Gates, qui avec l'argent est en train de chercher le vaccin contre le palu en Afrique. Vous prenez une autre dame comme Oprah.
Oprah Winfrey qui fait des talk shows aux États-Unis.
Mais voilà, justement, c'est avec des moyens financiers qu'on fait ça. Je lui dis, l'argent doit servir à ça.
C'est avec des moyens financiers, Jean-Jacques, ou bien c'est avec une volonté de bien faire avec son argent?
Alors, dans des conditions, ça sera les deux. Parce qu'il y en a qui ont les moyens qui ne le font pas. Par contre, il y en a qui...
On vous perd.
Non, c'est bon, je suis encore là.
Alors,
Il faut déjà avoir la, même avec la volonté, si vous n'avez pas les moyens, vous devinez que...
C'est sûr, on ne peut pas faire grand-chose si on n'a pas les moyens. On va reparler de la monnaie attitude, quelle est votre attitude vis-à-vis de l'argent. Et vous les voisins, appelez-nous 33 1 84 22 71 71. Quelle est votre relation à l'argent? Est-ce la liberté, la réussite ou bien énormément de jalousie à l'encontre des uns et des autres? Racontez-nous, expliquez-nous comment vous vivez l'argent au quotidien, ce que ça vous permet de faire. Est-ce que vous avez envie de le donner et de le partager? Dites-nous tout.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et bienvenue, si vous nous rejoignez, les voisins, vous êtes chez vous, c'est 7 milliards. Aujourd'hui, on s'interroge sur notre relation à l'argent. Est-elle sereine? Est-ce un problème? Est-ce que cela vous angoisse? Pour essayer d'y voir plus clair et de mieux se comprendre, aussi se comprendre, nous avons trois invités. Marie-Claude François-Logier, vous êtes psychanalyste à Paris. Christian Junot, auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous » chez Erol. Et Hélène Queneau-Suarez, sociologue, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Dites-nous, les voisins, est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur la relation que vous avez avec l'argent? Est-ce que vous avez des voisins autour de vous malades d'argent? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Christian Junot, on parlait un petit peu de l'attitude des uns des autres face à l'argent. On a parlé de cette attitude écureuil où on met de côté de l'argent pour voir venir, pour être plus sûr, plus sécure. Est-ce qu'il y a d'autres attitudes?
Alors oui, il y a une deuxième attitude qui est celle de ne pas attirer d'argent inconsciemment, bien sûr, donc de garder l'argent à distance. En quelque sorte.
Alors ça, expliquez-nous, parce que garder à l'argent sa distance, c'est un peu difficile
voilà.
à comprendre.
Alors c'est-à-dire que ce sont déjà des personnes, quand on leur demande à quoi ils associent le mot argent, ils vont avoir une projection négative. On dit l'argent, c'est sale, c'est l'injustice, c'est les conflits, source de conflits, c'est l'angoisse. Voilà. Ils auront des mots négatifs. Donc c'est assez logique quelque part qu'ils n'attirent pas d'argent alors qu'ils ont une perception négative de l'argent. Mais comment ça se manifeste? Je vois des personnes qui sont très bons dans leur métier et qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui font des rabais pour un oui et un non. Il y a des questions des fois de loyauté familiale. Je viens de milieu modeste et je ne m'autorise pas à gagner de l'argent alors que mon métier fait que je devrais en gagner plus.
Et là, on rejoint ce que disait Hélène Queneau-Suarez tout à l'heure. C'est difficile aussi d'avoir ce nouveau rapport à l'argent. J'en gagne. Est-ce que j'ose le montrer? Est-ce que j'ose l'utiliser?
Alors, suivant du milieu où on vient et suivant l'éducation qu'on a eue, effectivement, si dans mon éducation, j'ai entendu régulièrement être riche, c'est louche, effectivement, j'aurais de la peine moi-même à oser, alors, être riche, bien sûr, on met des guillemets là-dessus, mais à oser avoir plus d'argent, peut-être, de peur de déplaire à mes parents ou à d'autres personnes de mon milieu.
Et une troisième grande attitude, je crois, les montagnes russes.
Alors oui, les montagnes russes, c'est un peu un mélange des deux. C'est que c'est des personnes qui ont au moins une projection positive sur l'argent et au moins une projection négative sur l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont des périodes d'économie et simplement, ils vont utiliser leurs économies d'une manière qui n'est pas gagnante. Donc c'est pas ceux qui économisent pour un projet précis et bien réfléchi. C'est des personnes qui vont se débarrasser de leur argent au moment où inconsciemment ils se mettent en lien avec leur projection négative. C'est-à-dire qu'ils vont faire des dépenses compulsives. Ils vont attirer des personnes qui vont les rouler, qui vont leur piquer leur argent d'une manière ou d'une autre. Ils vont vraiment être attirés voilà, par toutes sortes de choses qui fait que leur argent va disparaître, le donner à gauche à droite, le prêter sans le réclamer. Ce qui explique d'ailleurs que plus des deux tiers des gagnants des gros lots dans les loteries ont tout perdu au bout d'une année ou deux. Ils sont dans ce deuxième mouvement ou dans ce troisième mouvement. Ils ne sont pas dans le premier, c'est clair.
Marie-Claude François-Logier, vous voulez dire?
Je voudrais dire une chose à propos de la projection négative dont vous parliez. J'ai beaucoup constaté que les adultes, les jeunes adultes ou les adultes plus tard, reproduisent l'attitude qu'avaient leurs parents vis-à-vis de l'argent. Alors, soit on était dans une famille très rigoureuse où il ne fallait pas dépenser d'argent, il fallait être très prudent, et même quelquefois les parents en avaient manqué, ou ils se disputaient sans arrêt pour l'argent. Et alors là, les enfants ont deux attitudes inverses. Soit ils décident de gagner de l'argent et de flamber, c'est-à-dire de tout jeter comme si c'était à la poubelle en vengeance de leurs parents, soit au contraire, ils décident d'être prudents, d'avoir un projet et de faire de l'argent dans une réalisation ou de société ou d'entreprise individuelle et de protection de la famille. Il y a deux attitudes ambivalentes, mais il faut souvent chercher quel est le nœud de l'histoire de notre relation à l'argent par rapport à ce que nous avons vécu dans l'enfance par les parents.
Et vous en avez fait un chapitre d'ailleurs, Christian Junot, dans votre livre. Hélène Queneau-Suarez, est-ce que vous avez ce sentiment que dans la classe moyenne, les enfants dont les parents ont déjà vécu plus confortablement ont conscience, justement, ils ont une autre relation avec l'argent aujourd'hui?
Oui, alors d'abord, c'est difficile évidemment de faire à la fois d'un côté de la sociologie et là d'analyser des comportements qui sont nécessairement des comportements extrêmement individuels.
Bien sûr.
Mais il y a quand même une grande tendance qui est qu'on a eu ces 10 dernières années l'émergence d'une classe moyenne, donc des gens qui sont émergents, donc ils savent ce que c'est que la pauvreté, ils ne veulent pas y retomber. Donc on est plutôt là dans les écureuils, ça c'est évident. Et la tendance qu'il va falloir voir venir, c'est ce que j'appelle les classes moyennes natives, c'est-à-dire la masse des jeunes gens qui sont nés dans la classe moyenne et qui auront forcément pas le même rapport, parce que ce ne sont pas des émergents, ce sont des natifs du statut, et donc du coup effectivement ils risquent d'avoir une relation, si ce n'est plus distante, en tout cas plus légère à l'argent, parce qu'il y en a toujours eu. Mais ça, je crois que c'est pas spécifique au continent africain. Je parle sous le contrôle de nos deux
autorités.
C'est plutôt une tendance générale qui est que la première génération accumule, la deuxième en profite, la troisième le dilapide. Enfin, c'est quelque chose d'assez connu, il me semble.
Christian Junot, ça s'apprend, l'argent, quand on est enfant, le rapport à avoir une relation sereine avec l'argent quand on est un enfant?
En tout cas, je pense que ça s'apprend à travers l'expérimentation. Et c'est vrai que chez nous, on voit que beaucoup d'enfants ont de l'argent de poche. Ce qui me paraît important, c'est que s'ils ont de l'argent de poche, qu'on les laisse faire leurs expériences. Parce que très vite, je vois que les parents veulent contrôler, comme déjà pour se rassurer qu'ils sont déjà sages avec l'argent. Alors que finalement, je pense qu'en expérimentant, on va apprendre par soi-même, et ça sera certainement un meilleur apprentissage que faire juste pour faire plaisir à papa et maman, alors qu'au fond de moi, j'ai envie de faire autre chose. Tôt ou tard, je le ferai quand même, mais d'une manière pas forcément adéquate.
Et sur Facebook, nous avons Samuel de Bobo-Dioulasso, du Burkina Faso, qui nous dit « J'essaie de gagner de l'argent par tous les moyens, je joue à la loterie, je fais des paris, je vais au casino, aujourd'hui, je suis ruiné. » Voilà, ça t'amène à ça. Je me rends compte que tout l'argent que j'ai investi là-dedans aurait pu me servir à autre chose. Dure réalisation, en définitive.
Alors, en tout cas, visiblement, il doit être dans le deuxième mouvement, hein, celui qui repousse l'argent, donc il n'arrive pas à en attirer. Donc après, ce serait intéressant d'aller voir, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, aller voir l'histoire familiale. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, je m'empêche inconsciemment de faire venir l'argent à moi.
Marie-Claude François Logier, l'argent, c'est terriblement intime. Hein. C'est peut-être ce que nous avons de plus intime. Mmh. Vous le dites aussi, Christian Junot, certains parleront peut-être plus volontiers de leur vie sexuelle que de leur argent.
Beaucoup plus. Quand j'ai écrit le premier livre sur l'argent, il y en avait pratiquement pas, parce que en France et je dirais dans certains pays d'Europe occidentale, c'est un tabou absolu. On ne montre pas sa feuille de paye aux voisins, on ne dit pas combien on gagne, on est tout à fait paralysé. Alors c'est un tabou qui est peut-être issu de la religion, c'est peut-être un tabou qui est issu aussi de la famille. On ne montre pas l'argent, on n'en parle pas, ça a une connotation un peu sale, qui rejoint d'ailleurs la culpabilité quand tout d'un coup on se met à en gagner beaucoup et on veut pas le montrer. On n'en parle pas.
Mais c'est un peu le grand mal. C'est un peu le grand mal, l'argent, c'est la raison de tous les maux de la terre. Il y a Ibrahim qui nous écrit de Bamako, qui nous dit les problèmes du monde actuel sont toujours des problèmes d'argent. S'il n'y avait pas l'argent, que ferait-on? Est-ce qu'on vivrait mieux sans argent?
Alors, personnellement, je suis convaincu que non. C'est-à-dire que nos comportements avec l'argent partent d'un autre endroit intérieur. C'est-à-dire que si j'ai peur de manquer et qu'on supprime l'argent, j'aurai toujours peur de manquer et je ferai des accumulations d'autres choses. À un moment donné, un auditeur l'a dit, l'argent est un moyen. Je dis oui, l'argent est un moyen, c'est vrai. Mais on peut supprimer l'argent et remplacer par autre chose. Aussi longtemps que intérieurement je ne suis pas en paix, ça va se manifester. Pour moi, là, souvent que j'entends l'argent, la source des problèmes dans le monde, je dis non, derrière l'argent, il y a toujours des humains qui se comportent d'une manière qui fait que l'argent peut être utilisé d'une manière au service de l'ensemble ou de manière très égoïste.
Et c'est d'ailleurs ce que nous dit un auditeur, un voisin sur Facebook, Bertrand Zozo, qui nous dit l'argent n'est ni bon ni mauvais, mais simplement utile. Il revêt le caractère de celui qu'il possède. C'est-à-dire que si tu es un homme honnête, ton argent sera comme toi et vice-versa. C'est exactement cela. Et pourtant, on a souvent l'impression qu'on personnifie l'argent. L'argent, c'était comme un génie. C'est presque quelqu'un, l'argent, quand on parle de l'argent.
Mais vous savez, c'était un dieu chez les Syriens. C'est Mammon. C'était le dieu syrien de la richesse qui était déjà adoré. C'est le veau d'or. Et ça, c'est à la fois un dieu vénéré et un dieu qu'on craint. Terrible. Et si on en manque, Il y a beaucoup de mouvements ou d'attitudes des contemporains vis-à-vis de l'argent qui sont nés de la peur du manque, le vide intérieur dont vous parliez. Et c'est intéressant de réfléchir à ce qui peut manquer à l'origine en nous pour trouver la paix et la sécurité. Vous citiez une phrase admirable du Dalai Lama. Et c'est vrai qu'avoir une certaine paix intérieure peut éviter toujours cette course à l'argent frénétique, sauf course à l'argent qui peut être utile à la famille et à un projet. Mais ça naît beaucoup du vide et du manque et de l'image qu'on en a.
Appelez-nous les voisins. Quelle est votre relation à l'argent? Dites-nous tout. 33 1 84 22 71 71. On vous attend en attendant vos appels. Neg Marron, la monnaie.
Yeah! Une fois de plus, c'est Neg Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas de caillasse, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de frais que l'on appelle genre A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée, ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller pétard ou aller faire des tâches droits. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Benji, Benji, prends le Mikey, madame Mikey, mon ami. Non, je ne viens pas de gollerie, seulement DJ. Être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie. Les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique. Pas de madame mathématique, si ça pas de patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société. Plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler. Plus moyen de survivre, si tu n'as plus de fric, ta vie est en jeu, tu es pris de panique. En effet, c'est la panique, c'est dans ton porte-monnaie. Tu n'as plus de fric, tu ne peux plus satisfaire tes envies. Pour toi, la vie est finie. Tire-toi une balle dans le crâne et arrache-toi au paradis. Oui. Arrache-toi au paradis. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Neg Marron, la monnaie, nous parlons de l'argent, les voisins, aujourd'hui. De l'argent, ou plutôt de votre relation à l'argent, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'avoir de l'argent, ça peut être plein de choses. Ça peut être notamment un positionnement dans la société. On a de l'argent, on le montre, ou pas d'ailleurs, Hélène Queneau-Suarez.
Alors oui, il y a la question du positionnement qui est importante. Alors ce qui est assez intéressant dans ce qu'on a pu étudier sur les classes moyennes en Afrique subsaharienne, dans les quelques pays qu'on a étudiés, c'est que il y a une différenciation entre le statut et le revenu. C'est-à-dire que pour être une classe moyenne, en fait, il faut avoir un travail formel et dans 95% des cas, il faut aussi avoir une activité informelle pour pouvoir compléter le revenu. Et donc du coup, le statut, il est lié à un boulot qui vous rapporte pas forcément beaucoup d'argent. Vous êtes instituteur, dans plein de pays, instituteur, ça gagne pas, par exemple. Et à côté de ça, vous avez une activité informelle, un business, quelque chose qui vous permet de compléter le revenu et d'accéder à votre statut de classe moyenne. Mais le statut, il est finalement séparé du revenu, ça c'est assez
on fait la distinction,
c'est assez particulier
entre les deux. Nous avons en ligne avec nous de Cotonou, bonjour Delia.
Bonjour Clémence.
Alors l'argent n'a pas toujours été source de bonheur pour vous, n'est-ce pas?
Bien sûr. Bon, pour moi l'argent représente beaucoup, il nous permet de régler les problèmes quotidiens. L'argent contribue au bonheur, mais néanmoins il constitue parfois une source de discorde, de jalousie entre amis, collègues de service, parents, et etc. Comme exemple, moi j'ai prêté à un de mes soi-disant amis la somme de 30 000 francs depuis plus de 6 mois. Et jusque-là, rien. Alors qu'il avait promis de me rembourser un mois plus tard, on s'entend. Je l'appelle presque tout le temps, il ne décroche pas. À la limite, je lui écris des mots grossiers, Mais rien. Conclusion, on n'est plus amis. Hein. Et même s'il arrivait qu'il me rembourse un jour, plus rien ne sera plus comme avant. C'est la méfiance totale.
Ouais, Delia...
voilà, la règle chez nous, c'est maintenant, oui.
Non, non, je vous écoutais.
La règle chez nous maintenant, en tout cas pour la majorité, si quelqu'un te demande de lui faire un prêt, on refuse systématiquement. À défaut, on lui donne ce qu'on a pour éviter à l'avenir des problèmes, afin que le lien social soit maintenu.
Ça, c'est un aspect important, Marie-Claude François Logier, Christian Junot et Lincoln Suarez. L'argent, on en a, on le partage ou pas, et dans certains cas, on est obligé de le partager également. Christian Junot.
Alors oui, après, bien sûr que aussi longtemps qu'on n'arrive pas à assumer les besoins vitaux, je veux dire, l'argent en tout cas est tellement pratique pour acheter ce qui est nécessaire pour ça, que c'est évident que c'est absolument indispensable d'en avoir, ou en tout cas trouver du soutien pour pouvoir être dans la survie. Après, moi, on en a un peu plus. Bah, encore une fois, ceux qui sont vraiment dans la peur d'en manquer, même en ayant beaucoup dans mon passé de banquier, j'ai vu des gens multimillionnaires avoir peur de manquer d'argent en permanence. On va encore une fois la caméra tournée sur soi et s'occuper de ses peurs et pas tellement s'occuper de ce qu'il y a autour de soi. Donc on va être dans une attitude frileuse et pas dans l'expansion. Alors que quand on a l'ouverture du cœur, effectivement, on peut ne pas être indifférent à ce qui se passe autour de nous.
C'est précisément ce que dit aussi Christian à Cotonou. Pendant ma carrière, j'ai bénéficié de plusieurs augmentations, mais elles ne m'ont jamais suffi. Je me demande combien il faudra me payer pour que je sois satisfait de mon salaire. L'argent empoisonne ma vie. C'est ça aussi, on peut en avoir beaucoup. Et en définitive, Marie-Claude François Logier.
Oui, parce que lui, apparemment, n'en a jamais assez. Il comble un vide qui est un puits qui est sans fond. Enfin, si je comprends bien. Peut-être serait-il utile que ce monsieur se penche sur ce qu'il attend de l'argent et qu'il se contente de ce qu'il gagne sans faire une course effrénée qui doit l'épuiser. Donc, et il n'y en a jamais assez. C'est le puits sans fond. Mais ça, ça rejoint les gens qui veulent accumuler et se construire une espèce de rempart aussi psychologique contre la mort, contre la finitude, contre la maladie. Et l'argent rassure dans ces cas-là. Or, ce monsieur n'est jamais rassuré.
Hélène Quenot-Suarez, la notion de partage est très importante également en Afrique. Quand on a de l'argent, on est censé le partager, être en tout cas soutien. Il a une valeur morale, l'argent?
Alors en tout cas, l'argent participe d'un processus d'individualisation certain, mais en Afrique, l'individualisation, ça veut pas dire l'individualisme. Et donc en fait, on assiste, en particulier en ville, à une recomposition des solidarités. Ça veut dire que les familles, d'abord, elles font en général moins d'enfants pour pouvoir effectivement investir sur eux, comme disent un certain nombre de gens interrogés, en particulier en Éthiopie. Et aussi choisir qui ils vont aider. Donc en général, il y a une sorte de recentrage sur la famille proche. On va aider les parents, évidemment, un frère, une sœur pour les études. On a aussi en général des maisons plus petites qui sont plus confortables, mais qui permettent pas d'accueillir des cousins de passage, par exemple, de manière à vraiment se recentrer. Je voudrais ajouter un point, si vous le permettez, sur la religion. Parce que c'est quelque chose d'important dans ce processus d'individualisation, puis on vient d'en parler. En fait, il y a un certain nombre de classes moyennes, je pense en particulier à l'exemple éthiopien, où les classes moyennes se convertissent, donc elles viennent de religions traditionnelles, d'un christianisme traditionnel, elles vont se convertir au protestantisme évangélique, au pentecôtisme par exemple, qui sont des religions qui donnent plus de part au succès individuel et qui finalement déculpabilisent l'argent. Et ça, c'est très important dans le processus d'accumulation et d'évolution des classes moyennes, de pouvoir gagner de l'argent sans culpabiliser de ne pas le redistribuer à tout le monde en particulier.
Et Christian Junot, alors est-ce que c'est une préoccupation que nous avons au Nord, on va dire, justement, de redistribuer, de partager cet argent, une forme de solidarité avec l'argent?
Je pense qu'elle est assez peu présente et sans doute bien moins présente qu'en Afrique. Et c'est pour cette raison justement que dans mon livre, dans les solutions, quand je parle de solutions globales, je dis qu'aujourd'hui, dans nos pays, en tout cas occidentaux, nous avons recréé des communautés vivantes plutôt que chacun pour soi. Pas d'une communauté vivante où on se connaît, où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Alors qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que nous devons tous nous débrouiller seuls, faire nos réserves pour la suite, pour le futur, pour la retraite, et que finalement, c'est un peu du chacun pour soi. Et pour moi, ça nous coupe les uns des autres et ça crée des peurs supplémentaires.
Marie-Claude. Je veux simplement dire que je trouve qu'en France, depuis la crise de 2008, il y a un repli sur la famille et il y a une plus grande solidarité dans la communauté familiale. Peut-être plus d'entraide, bon, qui peut parfois déboucher sur des drames, sur des rancœurs, mais il y a un repli sur la famille parce que c'est devenu une valeur centrale depuis quelques années seulement. Je ne sais pas si ça rejoint votre
La famille est une valeur centrale, mais l'argent aussi au sein de la famille, qui est une source de disputes très fréquentes. Vous, Christian Junot, vous animez des ateliers pour justement que les gens qui viennent à ces ateliers puissent se réconcilier avec leur argent. Qu'est-ce que vous constatez quand des couples viennent vous voir? Qu'est-ce que vous avez noté quelque chose d'intéressant?
Alors oui, bien sûr, c'est que déjà c'est un sujet de tension potentiellement important dans les couples. Et ce que je vois effectivement, c'est qu'il n'est pas rare dans les couples, ils ont deux attitudes très différentes avec l'argent. Un sera plutôt tendance écureuil à vouloir économiser et l'autre aura tendance à vouloir faire plaisir et à dépenser. Et la difficulté finalement, c'est que chacun pense que le problème est chez l'autre. C'est-à-dire moi-même, j'ai vécu un peu ça également en pensant que ma femme dépensait trop, qu'elle devait faire comme moi et beaucoup vouloir économiser. Et elle pensait que c'était le problème était chez moi, c'est que j'arrivais pas à me faire plaisir et je pensais simplement à retenir l'argent plutôt qu'à le dépenser. Donc aussi longtemps que chacun pense que le problème est chez l'autre, ça ne résout rien. Au moment où viennent les deux et qu'ils voient que les deux ont une partie du chemin à faire, ça devient beaucoup plus facile de se rencontrer à partir de là.
Oui, c'est
pas... et de se comprendre mutuellement, bien sûr.
Anastasia Kinshasa, nous dit, l'argent c'est le pouvoir, peu importe où tu habites, si tu as de l'argent et qu'il y a un problème dans ta famille, tu seras le premier à être au courant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, Marie-Claude François Legier.
Oui, s'il y a un problème dans ta famille, et tu pourras l'aider.
Sous-entendu.
Bon, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. Et en tout cas, ce que vous disiez à propos des couples, moi j'ai toujours estimé qu'avant de se mettre en couple, de vivre avec l'autre, il faudrait peut-être parler d'argent. Mmh. Comment va-t-on gérer le budget quotidien? Qui va payer quoi? Pour qu'on n'en parle pas tous les jours d'abord. Mmh. Et puis, que ça ne devienne pas une source de conflit au gré des factures qui arrivent. Mmh. Donc il faut peut-être en parler en amont.
N'est pas évident d'arriver justement à se poser, en parler, et toi,
avant,
quelle est la
part ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que l'argent est pour toi ? Est-ce que tu veux jouir de la vie, ce que tu considères jouir de la vie, en dépensant beaucoup ? Ou est-ce que tu veux au contraire accumuler pour la famille ? Ou pour la transmission ? Ou est-ce que tu veux aussi participer au bien commun et aider des gens qui ne...
Quel est le chemin de vie qu'on choisit ensemble, en définitive ?
Et on n'en parle pas beaucoup,
et on en parle
avant
pas beaucoup
avant de se
mettre en couple. Il y a Kassoum qui nous appelle de Dakar. Bonjour Kassoum.
Bonjour Clémence.
Alors, est-ce que vous vivez bien votre relation avec votre argent ?
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que vous racontez sur le plateau là-bas, je ne suis pas d'accord avec.
Vous n'êtes pas d'accord avec nous. Dites-nous pourquoi.
Non. Parce que l'argent fait le bonheur parfait.
Le bonheur parfait ?
Oui.
Pourquoi ?
Avant, l'argent contribuait au bonheur. Mais de nos jours, quand on n'a pas l'argent, même le cafard est mieux que vous.
Donc on n'a pas de respect, c'est ça que vous nous dites ?
Il n'y a pas de respect. Personne ne vous calcule, même dans votre propre famille. Je prends un exemple, quand on a un petit frère qui a de l'argent plus que vous, à toutes les réunions, il aura la parole. Et vous, si vous ne faites pas attention, vous ne serez même pas invité à cette réunion. Donc comment voulez-vous que je comprenne que l'argent contribue au bonheur? L'argent fait le bonheur pour moi.
Christian Junot.
Bon, alors ce que j'entends de la part de notre auditeur, c'est sûr que j'ai l'impression que, en tout cas en France, en Suisse, ça fonctionne un peu différemment, peut-être sur le regard qu'on peut avoir sur les personnes qui en ont ou qui en ont moins. Et j'entends bien que pour notre auditeur...
On peut jalouser un frère, une sœur qui a de l'argent, du coup qu'on écoute plus, on a l'impression que c'est toujours lui qu'on l'écoute parce que lui, il a de l'argent, et que moi, j'ai mon petit travail avec mon salaire et que ça n'impressionne pas. C'est quelque chose qu'on partage peu importe où on habite.
Alors bon, en tout cas, que ça peut être très douloureux à l'imaginer. l'image de ce que vous nous partagez, de très douloureux, de l'impression de ne pas exister parce que je n'ai pas d'argent. Donc aussi longtemps qu'effectivement dans une famille ou dans une communauté qu'on va associer réussite sociale et argent, c'est sûr qu'on a l'impression que je ne suis rien si je n'ai pas ça. Personnellement, alors c'est vrai que c'est mon regard occidental aussi, je vois bien que ça se joue sur d'autres choses, en tout cas dans ce que je peux voir dans mon entourage, j'ai envie de dire heureusement aussi, parce que j'ai rencontré tellement de gens multimillionnaires et tellement malheureux aussi dans mon métier de banquier.
Marie-Claude François Logier.
Oui, je trouve que c'est peut-être différent de ce qu'a vécu ce monsieur, où il y a, mais cela étant, ça existe aussi au Nord, en Occident, que si celui qui a beaucoup d'argent, ou dans une famille, ou dans un groupe, peut être tellement jalousé, il déclenche un sentiment d'envie, de frustration chez l'autre, de jalousie.
Qui n'est pas forcément moteur d'autre chose, d'ailleurs.
Mais pas du tout. Mais c'est simplement, il a le pouvoir de parler, de prendre la parole, d'être une sorte de chef, parce qu'il a entre les mains des sommes X ou Y qui peuvent ne pas être très importantes. Mais on lui doit un certain respect. Ça existe encore ici.
Et la notion de respect est assez fondamentale. Tous nos auditeurs nous disent si j'ai pas d'argent, je suis pas respectée. Si j'ai pas d'argent, je peux pas trouver de femme parce qu'on ne me considère pas. Hélène Queneau-Suarez, l'argent, c'est vraiment un facteur déterminant dans la société aujourd'hui?
Dans les sociétés africaines, certainement. Finalement, c'est un peu paradoxal. J'essayais de réfléchir à ça en entendant les deux autres invités. C'est que on est dans des contextes plutôt de manque d'argent ou de sociétés qui ont manqué à un moment donné, où il y a eu de grandes pauvretés et où il y a des processus, enfin des systèmes de solidarité et de péréquation interfamiliaux qui sont très importants. Alors du coup, forcément, ça donne beaucoup d'importance à celui qui a l'argent parce que on compte sur lui pour toute la famille. Alors que, effectivement, peut-être dans les sociétés occidentales, l'individualisme a conduit paradoxalement à dire, c'est chacun pour soi, certes, mais du coup, on peut moins s'intéresser à ce que gagne l'autre parce qu'on sait que de toute façon, qu'il ait de l'argent ou non, il viendra pas forcément nous aider.
En tout cas, c'était très bien de pouvoir nous interroger pendant cette émission. Merci les voisins d'avoir été aussi présents et nous avoir confié un petit peu vos angoisses autour de l'argent. Christian Junot, auteur de Ce que l'argent dit de vous. Marie-Claude François Logier, qui avait écrit également un livre sur les couples et l'argent. Demain, on parlera des femmes et des violences faites aux femmes, des violences conjugales.